De Vincent Souriau, reste avec nous. RFI vous donne la parole.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin, nous parlerons ensemble du chaos libyen. La Libye, vous le savez, est à la dérive depuis maintenant 3 ans, depuis la chute de Muammar Kadhafi. Les autorités ne parviennent pas à contrôler les dizaines de milices armées qui font la loi sur le terrain. Du coup, les craintes se multiplient de voir ce pays, et principalement le sud libyen, devenir un réservoir de groupes terroristes. En tout cas, hier, le ministre français de la Défense a déclaré que la France devait agir en Libye et mobiliser la communauté internationale. Jean-Yves Le Drian a laissé entendre que le dispositif militaire français au Sahel pouvait être mobilisé. Alors dites-nous s'il faut aujourd'hui, 3 ans après la chute de Kadhafi, une nouvelle intervention militaire. Quelle solution faut-il privilégier pour mettre fin à l'anarchie qui règne dans ce pays? 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de l'étranger. Je clique sur la page Facebook de l'émission, nous en sommes à 312 commentaires postés. C'est un sujet évidemment qui suscite beaucoup de réactions au standard et sur les réseaux sociaux. Nous vous donnerons la parole dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et c'est vrai que depuis la semaine dernière, depuis la spéciale que nous avons organisée avec Claire Hédon, nous avons reçu de nombreuses questions sur l'épidémie d'Ebola. D'ailleurs, le bilan, vous le savez, ne cesse de s'alourdir avec près de 2300 morts. Avec nous, un responsable de programme pour Médecins Sans Frontières. Vous savez que MSF est très certainement l'organisation internationale la plus impliquée aujourd'hui dans la lutte contre Ebola. Il rentre tout juste de Monrovia. Il était au Liberia il y a encore quelques heures. Pierre Mendinard, bonjour.
Oui, bonjour.
Mendiara, excusez-moi, j'ai écorché votre prénom. Merci de prendre le temps ce matin de répondre à quelques-unes des nombreuses questions que nous avons reçues au standard. La première question, elle nous vient de la République démocratique du Congo. Nous sommes à l'est de ce pays, à Goma. Bonjour Bédel.
Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous avez des questions, on vous écoute, et vous avez notamment une question bien précise sur le Sierra Leone.
Celle de procéder à un confinement de toute la population du pays. Mmh. Alors, la première question est celle de savoir comment vont-elles procéder les autorités pour réussir cette mesure de confinement. L'autre est celle de savoir si ces autorités vont-elles détecter toutes les personnes malades.
Alors, le réseau n'est pas très bon, mais on a entendu parler, évidemment, vous le disiez, de confinement. C'est vrai que durant 3 jours, du 19 au 21 septembre, personne ne sera autorisé à sortir. C'est une mesure extrême qui en dit long, évidemment, sur la gravité de la situation où l'épidémie a déjà tué sur place plus de 500 personnes. Savez-vous comment concrètement va se dérouler cette opération? Est-ce que vous avez des éléments d'information?
Alors non, effectivement, c'est une bonne question, parce que c'est assez difficile à imaginer de mettre en place cette idée de manière concrète sur le terrain. Et puis de manière générale, nous, on a pris position pour dire que ça nous semblait pas une bonne idée, pas une bonne stratégie. D'abord, on voit pas le rationnel derrière ça. C'est pas parce que les gens sont confinés pendant 3 jours que la transmission s'arrêtera. Ensuite, les moyens colossaux qu'il faudrait pour à la fois détecter tous les patients potentiels, les prendre en charge de manière correcte, les tester, les orienter vers le centre, ça nous semble pas faisable non plus.
Les autorités annoncent la mobilisation de 7000 personnes pour surveiller quand même plus de 6 millions d'habitants. Ça semble un peu dérisoire.
Oui, ça semble dérisoire. Et puis dans l'esprit, c'est à nouveau une mesure coercitive qui forcerait les gens à rester chez eux, en l'occurrence, alors que, encore une fois, ce dont on a besoin, c'est d'une confiance entre les populations et les autorités pour qu'il y ait une déclaration plutôt spontanée des signes précoces de la maladie, plutôt que une défiance qui fait que les populations vont plutôt avoir tendance à se cacher.
Ouais, ça va renforcer le sentiment de peur. D'ailleurs, vous rentrez de Monrovia et on se souvient que la mise en quarantaine d'un bidonville de la capitale du Liberia avait quand même montré ses limites. Il faut quand même préciser que, selon le porte-parole du gouvernement, il s'agit de détecter des cas probables de la maladie qui sont cachés par leurs parents dans les maisons. Donc, cette mesure sera appliquée dès le 19 septembre. Elle va donc durer 3 jours et on a bien compris que pour vous, cette réponse n'était pas appropriée. C'est bien ça.
La faisabilité paraît vraiment hypothétique.
Ouais. Pierre Mendiara, reste avec nous. D'autres questions au standard. Maktar, bonjour.
Bonjour.
Maktar ?
Oui, bonjour Juan.
Bonjour, vous nous appelez de Kaolack au Sénégal, on vous écoute.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI. On a entendu que l'OMS a donné son feu vert pour l'utilisation de certains sérums qui ne sont pas totalement sûrs. J'aimerais savoir quelles peuvent en être les conséquences négatives sur les personnes.
Mmh.
Et aussi, il parle d'une progression du virus vers 20 000 cas et il va falloir une durée de 6 à 9 mois pour endiguer l'épidémie.
Ouais.
J'aimerais savoir aussi sur quoi il s'est appuyé pour faire de telles déclarations.
Alors, c'est vrai que l'OMS s'attend à devoir traiter plus de 20 000 personnes dans les 6 prochains mois. Comment parvient-on à faire de telles prévisions ?
Alors, c'est un chiffre complètement indicatif de la part de l'OMS. Aujourd'hui, pour cette épidémie d'Ebola, on est dans le flou total puisqu'il n'y a jamais eu une épidémie d'une telle ampleur dans un milieu comparable auparavant. Par conséquent, les modèles qui sont faits sont extrêmement hypothétiques et on navigue à vue. Alors l'OMS donne des chiffres importants, je pense qu'ils ont essayé de faire passer un message aussi en faisant ça, en disant bon voilà, va y avoir beaucoup de cas parce que quand même, vu ce qui se passe en ce moment dans certaines parties de la région, comme par exemple à Monrovia ou en Sierra Leone, il va y avoir beaucoup de cas. Après, je crois que le chiffre de 20 000, il faut pas s'y arrêter. C'est extrêmement indicatif.
D'accord, mais Pierre Mendiara, lorsque l'ONU dit « nous nous donnons 6 à 9 mois pour endiguer l'épidémie dans les pays affectés », c'est comme annoncer un chiffre de 20 000 ou 30 000 personnes. C'est-à-dire qu'il faut pas vraiment faire attention à ce genre de déclaration ?
Il faut pas le prendre au pied de la lettre dans le sens où ce sont des estimations extrêmement larges. Après, je crois que le message qui est derrière et qu'il faut retenir, il faut y faire attention, c'est que ça va durer longtemps et c'est très grave et ça va concerner beaucoup de personnes qui vont être contaminées.
Ouais. Rapidement, Maktar nous posait une autre question. Il nous disait que l'OMS a autorisé certains sérums. Ils ne sont pas entièrement sûrs. Quelles sont les conséquences négatives, dit-il, pour les patients qui vont donc recevoir ces sérums?
On le sait pas. Donc le principe des médicaments et des vaccins qui vont être testés dans les mois qui viennent lors de cette épidémie, c'est que va y avoir des approbations de manière accélérée compte tenu de la gravité de ce qui est en train de se passer, qu'il n'y a pas d'autres alternatives aujourd'hui, et par conséquent le test de ces médicaments de manière préliminaire va être aussi accéléré. On ne connaît pas par définition quels vont être tous les effets secondaires sur les patients qui vont recevoir ces vaccins ou ces médicaments.
Mmh.
Maintenant, il faut savoir que pour certains d'entre eux, ils ont pu être testés dans le cadre d'autres indications thérapeutiques, et comme par exemple celui qui est le plus connu parce qu'il est administré à 6 ou 7 personnes, qui est le ZMAP, qui est un anticorps monoclonal, et qui, dont on sait, utilisé dans le cancer, qu'il a plutôt peu d'effets secondaires.
Mmh.
Et puis, dans le cas d'une maladie comme l'Ebola, qui a un taux de létalité tellement important, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de patients tellement important qui meurt, le rapport risque-bénéfice fait que l'OMS a considéré que ce sera quand même justifié, même si on ne connaît par définition pas tout de ces médicaments-là, ce sera justifié de les expérimenter dans le cadre de cette épidémie.
Pierre Mendiara, de Médecins Sans Frontières, responsable de programme au sein de cette organisation internationale. Il répond à vos questions ce matin sur l'épidémie d'Ebola. 33 9 693 693 70. Nguy Sali, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Dakar au Sénégal. On vous écoute.
Oui. Bon. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre la forme d'Ebola qui sévit en Guinée et celle qu'on a trouvée récemment au Congo?
Ouais. Au Congo, la République démocratique du Congo, où l'épidémie continue de faire des victimes. Le dernier bilan fait état de 35 morts. Effectivement, on dit beaucoup, et on entend dire évidemment sur les médias et même sur RFI, que l'épidémie qui sévit en République démocratique du Congo est différente de celle qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Que sait-on exactement ?
Ouais, je crois que ce qu'on veut dire quand on dit qu'elle est différente, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'on ne pense pas que celle qui vient de démarrer assez récemment au Congo ait pour origine un patient qui aurait voyagé d'Afrique de l'Ouest jusqu'à cette région du Congo et qui, par la suite, aurait transmis la maladie à d'autres personnes. On pense que c'est une épidémie indépendante et comme on est dans le cadre d'une de ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire un virus qui est... Qui apparaît pour une première fois chez un humain à partir d'un réservoir animal, ben on pense que c'est ce qui s'est passé récemment au Congo et que donc ce serait une coïncidence. Le fait que les épidémies soient se déroulent en même temps, c'est,
enfin,
c'est ce qu'on veut dire.
On sait qu'il existe 5 sortes de virus d'Ebola. Là, on sait que c'est la même ou pas la même ? Alors,
écoutez, je crois que on a dit que c'était la même en l'occurrence, mais j'en suis pas sûr à 100% parce que j'ai moins travaillé sur le Congo. Là, je reviens à peine du Libéria, il faudrait vérifier.
Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci encore une fois d'être avec nous. Vous rentrez de Monrovia, vous y étiez encore hier. Autre question standard. On parlait à l'instant de la République démocratique du Congo. On va justement à Mbujimaï. Bonjour, John Michel.
Bonjour, RFI.
Bienvenue sur l'antenne, nous vous écoutons.
Merci. Ma question est la suivante. Comment expliquer que la RDC est à sa 7e épidémie ? Qui est capable de freiner cette épidémie alors qu'il n'y a pas de vaccin ?
Alors, comment expliquer que la RDC, qui vit sa 7e épidémie depuis les années 70, a été capable de freiner à chaque fois cette épidémie alors qu'il n'existe pas de vaccin ? Comment le pays a réussi à éradiquer jusqu'à présent les épidémies précédentes ?
Ça, c'est une question majeure et il faudra y revenir aussi à froid une fois que cette épidémie en Afrique de l'Ouest sera terminée pour analyser les différences et analyser où est-ce que la réponse aurait pu être meilleure et où est-ce qu'elle aurait pu être différente finalement de ce qu'on fait jusqu'à maintenant en Afrique centrale. Donc c'est encore un peu tôt pour répondre à ça. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on pense en tout cas, c'est que il y a eu un ensemble de facteurs qui font que c'est complètement parti hors de contrôle en Afrique de l'Ouest. D'abord, l'épidémie a démarré dans une zone où les populations sont extrêmement mobiles et elles sont mobiles de manière transfrontalière, c'est-à-dire que la langue de Guéguédou, là où vous avez le triangle et les frontières Libéria, Guinée, Sierra Leone. Sont des zones de commerce, sont des zones de circulation fréquente avec les capitales de ces pays-là. Ce sont des pays beaucoup plus petits finalement que la RDC et moins rural aussi. Et donc l'épidémie est allée plus vite sur des zones urbaines.
D'accord. Mais là, par exemple, pour revenir sur la République démocratique du Congo, le virus Ebola, cette fois-ci, a été identifié dans une zone pour le moins enclavée. C'est une bonne ou une mauvaise chose ? Puisque quand on dit zone enclavée, ça limite quand même la progression de la maladie, puisque justement, il n'y a pas tous ces déplacements qu'on peut retrouver entre la Guinée, le Libéria, le Sierra Leone.
C'est une bonne chose. C'est une bonne chose par rapport à la transmission de la maladie, certainement, et c'est ça aujourd'hui dont on pense qu'elle est la différence principale entre les épidémies précédentes et celle-là, c'est que elles sont plutôt survenues dans le passé, en RDC, en Ouganda, dans des zones enclavées, très rurales, avec peu de circulation des personnes, ou moins en tout cas, que ce à quoi on assiste aujourd'hui en Afrique de l'Ouest.
Pierre Mendiara, d'autres questions au standard au 33 9 693 693 70. Je me fais le porte-parole de Mahamadou. Il est à Monrovia, au Libéria. Il nous dit, voilà, il y a des rumeurs ici qui racontent qu'il faut brûler les corps des victimes d'Ebola. Dans quelles conditions, nous demande-t-il, doit-on enterrer les personnes décédées du virus Ebola ?
Alors, c'est plus que des rumeurs, puisque il y a eu un décret des autorités du Libéria pour dire qu'à Monrovia, en tout cas, toute personne décédée doit aujourd'hui faire l'objet d'une crémation plutôt que d'un enterrement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et je crois que globalement, c'est plutôt bien accepté par la population, même si ce n'est pas la manière traditionnelle d'enterrer. Comment enterrer ? C'est extrêmement dangereux de manipuler le corps d'une personne décédée d'Ebola, puisque c'est à ce moment-là que le corps est le plus contagieux. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la quantité de virus dans les liquides que le corps exprime est le plus dense, est la plus importante, et par conséquent, si on touche ce corps, on est très à risque de contracter la maladie. Par conséquent, les enterrements, si on continue avec l'option de l'enterrement, doivent se faire de manière extrêmement rigoureuse avec des sacs dans lesquels on enveloppe les corps. Il faut faire ça avec des tenues de protection, celles qu'on voit souvent dans les images, qui protègent complètement celles qui manipulent. Et par conséquent, c'est déjà assez difficile de faire un enterrement qui soit dans les normes. On le peut quand même. Ouais. Et alors, la crémation a pour avantage de réduire une partie de ce risque-là, de transmission en manipulant les corps. Il faut quand même, bien sûr, ramasser les corps et puis les emmener jusqu'au crématorium. Mais ensuite, au moment de l'enterrement, les risques sont moindres. Aujourd'hui, c'est un énorme sujet sur Monrovia. Il y a de plus en plus de corps à ramasser. Les services ad hoc qui ont été mis en place pour ramasser les corps doivent augmenter leur capacité en permanence. Le crématorium aussi, aujourd'hui, on y brûle entre 80 et 130 corps par jour.
Oui.
Et les chiffres augmentent.
Les chiffres augmentent. On est à 1224 morts au Libéria, selon les derniers chiffres publiés hier par l'OMS. Pierre Mendiara, je jette un coup d'œil sur la pendule. Il nous reste 3 minutes 30. On va essayer de prendre un dernier auditeur. Il y a encore beaucoup de questions. Boubacar nous appelle de Brazzaville. Bonjour Boubacar.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
On attend peu si les autorités maliennes parlent sur les précautions à prendre face à l'épidémie Ebola. Je voudrais savoir quelles sont les mesures prises par les autorités maliennes pour lutter contre la propagation d'Ebola. Pourquoi le Mali n'adopte pas des mesures aussi restrictives que certains pays voisins?
Ah, ça c'est une bonne question et on l'a sélectionné, Pierre Mendiara. C'est vrai que contrairement à la plupart des autres pays de la sous-région, le Mali n'a pas fermé ses frontières.
Oui, le Mali n'a pas fermé ses frontières. Ça ne veut pas dire que le Mali ne fait rien. Le Mali a créé un comité interministériel. Il y a des ONG qui y participent. Nous-mêmes, on y participe. On a aidé à mettre en place un plan stratégique de préparation. Alors maintenant, évidemment, ce qui est nécessaire, c'est que tout ce qui est dans le plan stratégique soit effectivement mis en place. MSF, d'ailleurs, a fait aussi des donations de matériel et participe aux formations du personnel. Sur la question de la fermeture des frontières, nous, on pense que le Mali a bien fait. D'ailleurs, l'OMS ne recommande pas de fermer les frontières. Ouais, pourquoi?
C'est d'ailleurs ce que dit le gouvernement. On ne ferme pas les frontières parce que cette mesure n'est pas prévue dans les règlements de l'OMS.
Voilà. Et puis, alors, c'est vrai qu'intuitivement, ça paraît une bonne idée. Et d'ailleurs, si on était vraiment certain de pouvoir hermétiquement fermer une frontière, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que dans la réalité de ces zones rurales, on ne peut pas complètement fermer une frontière. Or, si les gens passent par des sentiers, par exemple, par des petits chemins qui font qu'ils vont échapper aux mesures de vigilance, c'est encore pire finalement que si on laissait ouvert et qu'on était capable, encore une fois en ayant une relation de confiance avec la population, de mettre en place des mesures de contrôle à l'entrée. C'est ça qui est l'idéal. L'idéal, mais pas pour autant facile à faire non plus. Alors, on est dans une situation très compliquée où on ne peut pas dire qu'il y ait une solution magique, mais enfin, en tout cas, nous, on soutient le Mali dans le fait qu'ils ont décidé de ne pas fermer la frontière avec la Guinée, ouais, et plutôt de faire le maximum de contrôle possible.
Et d'ailleurs, lundi, réuni en sommet à Addis Abeba, l'Union africaine a appelé les pays africains à lever toutes les restrictions au voyage mises en place contre l'épidémie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On avait prévu plein d'autres questions. Pierre Mendiara, on aura peut-être l'occasion de vous avoir dans les prochains jours. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Sachez que demain, nous parlerons de la lutte contre l'épidémie Ebola. Nous vous donnerons la parole pour vous écouter, vous entendre, d'autant qu'hier le Conseil de sécurité de l'ONU, devant ce Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre libérien de la Défense a lancé un appel à l'aide en assurant que l'existence de son pays était gravement menacée. Vos réactions, vos commentaires sur la gestion de cette crise sanitaire, ce sera demain sur RFI. Pour l'instant, restez avec nous, ce sera le journal et on revient dans 10 minutes, nous parlerons cette fois-ci du chaos libyen. A tout de suite.
Appel sur l'actualité, vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.